Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre comme les choses arrivent.
L'histoire commence en octobre 2013, quand Christophe M., salarié chez Tefal à Rumilly, près d'Annecy, trouve un document dans une photocopieuse indiquant l'intention de la direction de le licencier sans motif sérieux. Lui fixer des objectifs inatteignables, suggère le courrier. L'informaticien, qui demandait le paiement d'heures supplémentaires, voit, je cite, « le ciel lui tomber sur la tête », comme il le déclare lors de son procès. L'homme cherche alors d'autres documents pour se défendre et tombe sur des mails concernant le travail de Laura Pfeiffer. Laura, elle, est une jeune inspectrice du travail. En janvier 2013, lors d'un contrôle chez Tefal, elle a justement découvert que l'accord sur les 35 heures signé en 2000 avec les syndicats était caduc et qu'il fallait le renégocier. En avril de la même année, le directeur départemental du travail, son supérieur hiérarchique, la convoque et lui demande de revoir sa position sur l'accord RTT de Tefal. Il exerce sur elle une pression insistante, l'accuse de vouloir mettre le feu dans cette grosse entreprise qui fournit un grand nombre d'emplois dans la région. Fort déstabilisée, Laura Pfeiffer se met en arrêt maladie. Et c'est à ce moment-là que Christophe M. la contacte pour lui communiquer le contenu des courriers qu'il a trouvés. Ce sont des échanges entre la direction de l'inspection du travail de Haute-Savoie, la direction de Tefal et la préfecture. Les trois cherchent de conserve une solution pour se débarrasser de Laura. Il est question de la muter, de lui confier d'autres tâches sur d'autres territoires, dans d'autres entreprises. Laura Pfeiffer est scandalisée et décide de diffuser ses documents dans la presse. À l'initiative du procureur de la République, Laura Pfeiffer sera alors poursuivie pour recel de documents et violation du secret professionnel, ce qui ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'inspection du travail. Le salarié lanceur d'alerte, lui, est également retrouvé et poursuivi en justice. S'en suivront 7 ans de combats judiciaires, dont je vous dirai l'issue à la fin de cette émission. En attendant, Laura Pfeiffer raconte son histoire au Salon du Livre des lanceurs et lanceuses d'alerte à Paris en 2017 à Inès Leroux. On l'écoute.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Bonjour Abby.
Pardon.
Vas-y, rentrez.
Ah, il est là, d'accord. Il est pas plus petit.
Je suis Laura Pfeiffer, je suis inspectrice du travail à Annecy, en Haute-Savoie. J'ai 38 ans. Dans l'Ain, ça se passait très bien. Mon poste m'allait complètement. L'environnement de travail m'allait aussi. Les relations avec mes collègues et ma hiérarchie étaient totalement... c'était parfait, quoi. Mais bon, le problème, c'était la distance. Donc j'avais 1h20 aller, 1h20 retour par jour, en fait. Donc ma mutation, elle était fort attendue par moi et ma famille. Donc quand j'ai eu la Haute-Savoie, comme je le demandais depuis plusieurs années, j'étais assez contente au départ. Après, j'ai déchanté. Parce que l'ambiance, c'était pas la même. J'ai senti qu'il y avait, plus d'argent. C'est un département dans lequel il y a beaucoup d'argent. Et j'ai vu aussi assez rapidement qu'il y avait pas mal d'appuis politiques. Notamment, il y a Monsieur Accoyer dans le coin. C'est un élu des Républicains. Et c'est quelqu'un de très influent sur le département. Il y a des sénateurs, etc. L'argent plus les appuis politiques, faire son métier d'inspecteur du travail, c'est-à-dire aller titiller le patronat qui ne respecte pas forcément totalement la réglementation, moi j'ai senti en tout cas pour ma part que ça allait être peut-être plus compliqué ici que ce que ça ne l'était dans l'Ain. L'affaire Tefal, c'est finalement le reflet de ce qui se passait de manière latente d'ores et déjà sur le département. Et donc moi j'avais en charge le secteur de Rumilly, l'Albanais, donc toutes les villes qui sont avoisinantes de Rumilly, et d'autres villes aux alentours limitrophes d'Annecy. Et donc c'est pour ça que j'étais en charge de Tefal. quand vous avez des entreprises de 2000 salariés, pratiquement 2000 salariés qui, enfin, dans votre secteur, vous êtes souvent sollicité par les organisations syndicales, elles viennent souvent vous voir pendant vos permanences physiques. Et donc, Tefal était classiquement dans ce schéma-là. Donc, j'ai notamment été sollicité par les organisations syndicales sur leur accord d'aménagement de la durée du travail. Alors, les agents de maîtrise chez Tefal faisaient beaucoup d'heures. Ils n'étaient pas au forfait à l'époque et ils ne pointaient pas. Donc en gros, toutes leurs heures supplémentaires n'étaient pas payées. Donc eux se faisaient voler. Et puis l'État également, puisque ça fait de la fraude aux cotisations sociales, etc. etc. Donc l'inspectrice qui me précédait a demandé à la société Tefal de les faire pointer. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont obtempéré, ils les ont fait pointer. Puis évidemment, au bout de quelques temps, il n'a pas fallu longtemps, ils se sont bien sûr aperçus que leurs agents de maîtrise faisaient beaucoup, beaucoup d'heures. Et donc ça leur coûtait très cher en heures supplémentaires. Donc ils ont décidé de faire signer des conventions de forfait à leurs agents de maîtrise pour que ceux-ci, en fait, soient payés sur un forfait supérieur aux 35 heures et que ça leur coûte moins cher en heures supplémentaires. Et donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que la société et les managers et les responsables hiérarchiques intermédiaires mettaient une énorme pression sur les agents de maîtrise pour qu'ils signent tous le forfait à 41 heures, ce qui était le plus intéressant pour la société. Donc en fait, comme moi j'ai été saisie, là je me suis aperçue que l'accord n'était pas valide. Or on était en 2012 et l'accord datait de 2000, donc il avait 12 ans. Donc moi je leur ai dit, il faut que vous refassiez un accord légal, avec des dispositions claires et conformes à la loi. Et dans les couloirs, c'était en fin 2012, j'avais dû croiser mon directeur départemental de l'époque qui avait dû entendre parler de ce que j'étais en train de faire. Il m'avait dit « Faites attention à ce que vous faites, on m'a dit que vous aviez dit que l'accord n'était pas légal chez Tefal, ça peut être dangereux, réfléchissez avant de faire quoi que ce soit. »
Donc c'est ça votre supérieur hiérarchique à l'inspection du travail qui est indépendante de Tefal.
Oui, tout à fait, mais bon, c'était pas aller plus loin, puis moi j'avais pas ce que je vous disais, c'était une ambiance un petit peu comme ça tout le temps, donc moi j'en avais pas tenu compte, j'avais continué à faire ce qui me semblait opportun. Par contre, en avril, donc début avril 2013, la société Tefal a pris rendez-vous avec moi, à mon bureau. Donc ils sont arrivés, ils ont essayé de me convaincre que mon analyse n'était pas bonne. Je leur ai dit que voilà, pour l'instant, je leur laissais un peu de temps, qu'il fallait le renégocier, et que s'ils ne le renégociaient pas, ben moi je n'excluais pas le fait de pouvoir faire un contrôle chez eux de la durée du travail, et que tout ce qui était au-delà de 35 heures, ça serait des heures pour moi dissimulées, hein, donc du travail dissimulé, du travail au noir. Donc voilà, je les ai prévenus. Donc après, ils sont repartis. Et puis moi, j'ai plus de nouvelles pendant quelques semaines, jusqu'à ce que je sois convoquée finalement par mon directeur départemental.
À l'inspection du travail.
Tout à fait. Oui, c'est une convocation qui a donné lieu à un entretien de plus de 2h30, où là, ça s'est très très mal passé. Au départ... Il a commencé à être hyper agressif en me disant « asseyez-vous, mais j'ai fait venir votre directrice adjointe pour qu'on soit deux parce que j'ai aucune confiance en vous ». Donc ça a été très très agressif d'entrée de jeu. Il m'a reproché de faire trop de courriers à la société Tefal. Il m'a dit « vous avez envoyé une vingtaine de courriers à la société Tefal en 4 mois, c'est inadmissible ». Je lui ai dit « mais est-ce que vous avez au moins lu mes courriers ?» Je lui ai fait « parce qu'avant de se demander si c'est inadmissible, vous pourriez au moins lire les courriers, voir ce que j'ai écrit et voir si ou pas, à ce moment-là, ils sont justifiés et opportuns ». Évidemment, il n'avait pas lu les courriers. Et à la fin de l'entretien, ça s'est terminé. Il m'a dit « je vous laisse ma semaine de vacances pour revenir sur votre position et sur votre contrôle de la société Tefal ». En gros, laissez tomber, quoi. Mais clairement, c'était de la pression et du chantage, quoi. Et c'était des menaces aussi. Des menaces sur ma carrière, puisque lui m'a clairement dit « moi, je suis en fin de carrière, j'ai rien à craindre. Vous êtes en début de carrière, méfiez-vous ». Je suis revenue à mon bureau, il était 11h30, en gros il a duré de 9h à 11h30. Et à 11h30, j'ai dépointé un quart d'heure plus tard et je suis rentrée chez moi, direct. J'étais pas bien du tout en fait, j'ai pleuré pendant l'entretien, j'étais hyper mal. Je me suis laissée, j'ai pas vu mon médecin traitant le vendredi après-midi, je me suis laissée le week-end, je me suis dit bon, allez, tu vas respirer un bon coup, le week-end va passer, ça ira mieux, sauf que le lundi ça n'allait vraiment pas mieux du tout, je pleurais toujours. Je suis partie en arrêt maladie une semaine, j'ai essayé de revenir au travail, ça a duré un petit mois, et puis comme j'allais vraiment vraiment mal, je suis repartie, et là ça a duré beaucoup plus longtemps, ça de juin jusqu'à novembre, je suis repartie. Donc j'avais l'habitude hein, de voir des salariés en dépression à cause de leur travail, etc., ben voilà, ça m'arrivait à moi. Puis c'est vrai que tout ce qu'il m'avait dit pendant 2h30, finalement, ça a saboté un petit peu tous les fondements sur lesquels je m'appuyais pour exercer mes missions. Tout ce que j'avais appris jusque-là, tout ce que j'avais cru comprendre de mon métier, finalement, il me disait que je m'étais gourée et que c'était complètement l'inverse. Donc c'est vrai que c'est très déstabilisant. Moi, j'ai pas dit, à l'époque, j'avais pas 15 ans de carrière ou 20 ans de carrière derrière moi. J'avais 3-4 ans d'expérience, c'était pas beaucoup. Je me suis en fait remise trop en question. Je me suis dit, mais peut-être que c'est moi qui ai un souci de pratique, et peut-être que c'est moi qui me fourvoie et qui prend pas la bonne direction, et peut-être que tout est ma faute. Et c'est que quand j'ai reçu les fameux documents en octobre 2013 que j'ai fini de m'interroger, en fait, que ça m'a aidé à reprendre un petit peu le dessus. Bah donc j'étais un jour dans ma voiture, j'ai ma secrétaire qui m'appelle. Et là, elle me dit, écoute, j'ai reçu un mail bizarre sur la boîte professionnelle, il faudrait que je te le passe. Donc elle me transfère le mail, et donc c'est une personne anonyme qui me dit qu'il sait ce qui m'arrive et qu'il a des documents qui prouvent qu'il y a une sorte de complot contre moi.
Voici un extrait du courriel reçu par Laura Pfeiffer. Je suis en possession de documents hyper confidentiels prouvant que vous avez été victime de pression. Je sais que le groupe SEB et la société Tefal ont exercé via des personnes du MEDEF une pression sur votre responsable à l'inspection du travail afin qu'il vous fasse taire.
Et il me dit, si vous voulez les documents qui prouvent ce que je vous dis, vous me le dites et à ce moment-là, je vous les envoie. Je fais, bah oui, je veux bien les documents. Donc il me les envoie. Et alors là, j'ai le choc. Là, c'est le choc de ma vie, quoi. Je me rappelle, je suis dans la voiture avec mon mari et je commence à ouvrir les documents sur mon téléphone portable et là, j'hallucine.
Voici ce que contiennent les documents reçus par Laura. Tout d'abord un courriel d'Aurélie, du service des ressources humaines de Tefal, adressé à Dan, le DRH de Tefal. Il a pour objet « Info intéressante ». Dan, j'ai échangé avec le responsable juridique du patronat de la métallurgie au sujet de l'inspectrice du travail. Il me dit que son supérieur à l'inspection du travail a le pouvoir de la changer de section administrative pour que Tefal ne soit plus dans son périmètre. Intéressant, non ? Le DRH répond quelques instants plus tard. « Merci de prendre rendez-vous avec le directeur départemental de l'inspection du travail dès mon retour. Je pense que nous devons aussi voir le préfet. » Dans une note interne de Tefal portant sur l'inspectrice du travail, on peut lire le 26 avril 2013 « On attend de voir si l'action du directeur départemental du travail porte ses fruits. » Puis, le 26 juillet 2013, Dan, le DRH, écrit au président de Tefal un courriel intitulé « Nouvelles du front ». Par le biais de nos interlocuteurs du MEDEF, que j'ai rencontrés aujourd'hui, je souhaitais vous faire part d'une information importante. Notre inspectrice du travail est depuis quelques jours en arrêt pour pression psychologique.
Tout s'explique d'un coup. C'est-à-dire que j'étais dans le brouillard et d'un coup, là, pouf, les nuages se dissipent d'un coup, quoi. C'est-à-dire que là, je comprends. C'est là que j'apprends, en lisant ces documents, que la veille de mon entretien de 2h30, mon directeur départemental a reçu l'entreprise Tefal. Et mon directeur a fait embaucher quelqu'un de sa famille en stage chez Tefal au même moment où il m'évinçait moi de mon poste. Je me dis, ah ben voilà, mais en fait, c'est que mon directeur, il est corrompu, quoi, en gros. Il y a un truc derrière moi, c'est une sorte de complot, je gêne. Et il faut me dégager, quoi. En gros, mais moi, je l'avais pas imaginé jusqu'à ce que je le vois, en fait. Il y a une sorte de tableau Excel, veille sociale, donc où ils mettent des codes couleurs vert, jaune, rouge, noir. Donc vert, c'est un risque modéré, et noir, c'est un risque ultra grave. Et donc, tous mes courriers, etc. Moi, je suis en noir. Voilà. Et puis, ils ont contacté une personne du service de renseignement. C'est sur
les renseignements généraux.
Ouais, voilà, les renseignements généraux sur ma personne. Leur but premier, c'est que je ne sois plus leur inspectrice du travail. En fait, au bout de 2-3 semaines de réflexion, j'ai décidé de saisir le Conseil national d'inspection du travail, le CNIT, pour atteindre à mon indépendance. Et je joins en pièce annexe tous les documents qui m'ont été envoyés pour prouver que effectivement, il y a exercice de pression extérieure indue. Et du coup, j'ai mis en copie toutes les organisations syndicales qui ont reçu une copie du mémoire et des annexes. Et c'est à ce moment-là que les documents sont partis dans la presse. Et c'est là que les ennuis réels ont commencé. Parce qu'en fait, la société Tefal a porté plainte contre X en janvier 2014. Elle veut retrouver qui a fuité chez eux, qui m'a donné les documents. Elle, c'est son but, hein. Donc comme elle ne sait pas, elle porte plainte contre X. Et donc là, il y a une enquête de gendarmerie qui démarre en janvier 2014. Et donc moi, je suis entendue dans ce cadre-là, ça doit être en mai 2014. Où là, il me pose en gros la question de est-ce que je sais qui m'a transmis les documents. Donc la réponse est non, puisqu'en plus à ce moment-là, je ne savais toujours pas. Mais ce que j'apprends pendant cette audition, c'est qu'ils ont saisi tous les ordinateurs de la société Tefal, ils ont tout examiné. Et une fois qu'ils avaient trouvé d'où provenait la fuite, en fait, chez eux, ils sont allés trouver la personne en cause pendant qu'elle travaillait. Ils l'ont mis les menottes devant tous ses collègues et ils l'ont balancé en garde à vue pendant 48 heures. Donc il s'agissait d'un salarié, d'un informaticien de la société Tefal qui est tombé sur ses documents par hasard alors qu'il était il commençait à être en conflit avec son employeur. En fait, il passait devant une photocopieuse un jour et il voit un document qui comporte son nom sur la photocopieuse. Et quand il a vu son nom, il regarde le document et en fait sur le document, il était indiqué qu'il prévoyait de le licencier parce qu'il réclamait le paiement de ses heures supplémentaires.
Tefal, direction des ressources humaines, compte rendu de la réunion du 8 octobre 2013. Cas de Christophe M, décision de licencier. Creuser la piste de la mobilité, lui fixer des objectifs inatteignables.
Donc lui, il tombe sur ça, donc il apprend comme ça qu'il va sauter, alors qu'il avait je sais pas combien d'années d'ancienneté dans la société, plus de 10 ans, enfin, ça faisait longtemps qu'il était là. Et donc, en gros, il décide d'aller sur les serveurs pour voir s'il trouve des preuves qui prépare un licenciement injustifié, en fait, contre lui. Et puis, quand il regarde les dossiers, en fait, il trouve rien le concernant lui. Mais c'est là qu'il trouve tous les documents me concernant moi. Et donc là, il s'est pas senti de pas me les donner, en fait. Pour lui, c'était non-assistance à la personne en danger s'il m'informait pas de ce qu'il avait trouvé. Et donc, voilà, il s'est fait mettre en garde à vue. Il a avoué rapidement que c'était lui. Et lui, il a tout perdu, hein. Il a perdu son emploi, il s'est fait licencier pour faute lourde, etc. Mais voilà. Pendant tout ce temps-là, tout 2014, les relations avec mon directeur départemental ne faisaient que s'envenimer. Hein. J'ai dû recevoir une 10 ou 15 recommandés avec accusé de réception à mon domicile qui me menaçaient de tout. Vous prenez les voitures de service pour votre besoin personnel, ce qui était faux. Vous pointez pas comme il faut. Qu'est-ce qu'ils me reprochaient? Ah oui, je devais prendre des congés en août 2014. Trois semaines avant la prise de mes congés, ils m'ont dit finalement vous prendrez pas vos congés. Que des trucs comme ça, c'était horrible. Et donc, suite aux 15 recommandés reçus, aux mails de menaces, etc., moi, j'ai déposé une plainte auprès du procureur de la République pour harcèlement moral contre mon directeur départemental et mon directeur régional. Et puis, arrive très vite ma convocation au tribunal correctionnel d'Annecy en tant qu'accusée. Co-accusée avec le salarié qui m'a transmis les documents. Là, je prends un coup sur la tête parce que je m'y attendais tellement pas, parce que pour moi, j'avais rien fait. Donc,
Vous êtes accusée de quoi ?
Alors, je suis accusée de recel de documents volés et de violation du secret professionnel. Sauf que pour le recel de documents volés, quand bien même ils auraient été volés, pour pouvoir être accusée de recel, il aurait fallu que je sache que les documents aient été volés. Et puis, violation du secret professionnel, je vois pas en quoi on peut me reprocher d'avoir communiqué les documents à mes syndicats professionnels à moi. C'est pas comme si c'est moi qui les avais communiqués à la presse. Et donc, là, je passe un été... Troisième été, pourri. C'est-à-dire que là, je retombe en dépression profonde, comme en 2013, en fait, la même chose. Je suis dans un état psychologique extrêmement dégradé, on peut le dire. Je veux quitter mon mari, je veux plus voir mon enfant, je veux plus voir personne, je fais que pleurer. Je suis sous médicaments, je suis obligée de voir un psychiatre, enfin, ça va pas du tout, quoi. J'ai toujours cru en la justice, j'ai toujours cru en l'état de droit, c'est pour ça que je suis juriste, etc. Ben là, je me dis que ça n'existe pas, en fait. Que quand c'est des puissants qui sont aux manettes, qu'il y a des enjeux politiques forts avec de l'argent en jeu, des emplois, etc., que ben, tout ce qui est justice, tout ce qui est droit, tout ce qui est moral, ben, c'est fini. Tout le monde a oublié, quoi. Et le procureur de la République en premier, et là, ça fout la trouille.
Le 21 mai 2015, dans le journal L'Humanité, le procureur de la République d'Annecy déclare: qu'une grande entreprise vienne dire au directeur du travail qu'une inspectrice du travail lui casse les pieds, je ne suis pas juridiquement d'accord. Mais en même temps, c'est la vie réelle. On vit dans un monde d'influence et de communication. Ce n'est pas le monde des bisounours. Je connais très bien le directeur du travail en question, qui est un homme charmant. J'ai beaucoup hésité à poursuivre une inspectrice du travail, mais le fait qu'elle ait arrosé tous les syndicats de documents obtenus de manière frauduleuse me paraît inadmissible. On n'en est qu'au stade des poursuites, mais ce peut être un rappel à l'ordre pour un corps qui se doit d'être éthiquement au-dessus de la moyenne, une occasion de faire le ménage.
Alors que l'enquête est à peine commencée, l'enquête de gendarmerie concernant ma plainte est en cours, lui déclare que mon potentiel agresseur, contre qui j'ai porté plainte, est un homme charmant. Donc vous imaginez-vous l'objectivité de l'enquête, quoi. C'est-à-dire que l'espoir que j'avais qu'éventuellement il soit inculpé lui aussi suite à ma plainte, c'est mort, quoi. Parce qu'il dit que c'est un homme charmant et il me traite à moi de voyou. Il ne m'a jamais rencontré, il ne m'a jamais entendu, je ne suis pas jugée. Et il me traite dans la presse de voyou.
Et vous avez pu expliquer ça ? Pourquoi il avait cette réaction-là ?
Déjà, il connaît personnellement mon directeur départemental, puisqu'il dit que c'est un homme charmant. Déjà, bon. Ensuite, Annecy, le problème d'Annecy, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup d'argent, de l'influence politique, et en plus, c'est tout petit. Donc, on se dit que, oui, ils doivent tous à peu près se connaître. Moi, je suis la petite inspectrice de travail, qui empêche de tourner en rond, je suis le caillou dans leurs chaussures... Ils vont pas s'embarrasser 550 ans avec moi, quoi. D'ailleurs, ils n'ont pas pris de gants.
Et ensuite ?
Ensuite, le procès se passe. Et donc, j'arrive. Et puis, là, le cauchemar commence. Le cauchemar durera 7h30. 7h30 d'audience, dans lequel je me fais invectiver, traiter de tout. J'ai l'impression que je suis la plus grande criminelle que la Terre n'ait jamais portée. Même mon avocat, Maître Leclerc, qui est quand même président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme et qui a presque 60 ans de carrière, puisqu'il a plus de 80 ans, me dit qu'il n'a jamais vu ça. Et puis même l'avocat de la partie civile, donc l'avocat de la société Tefal, à la fin des auditions, a dit « j'ai pas grand-chose à dire, Madame la Présidente et Monsieur le Procureur, on fait le travail à ma place ». Il l'a clairement dit. Ça a choqué beaucoup de monde. J'ai pas mal de mes collègues, proches ou moins proches, qui étaient dans la salle, qui, pour certains, sont partis en pleurant pendant l'audience, ils n'arrivaient pas à supporter. Au moins, la bonne chose de cette audience, c'est qu'il n'y avait pas d'espoir. C'est-à-dire que je savais que je serais condamnée et que le salarié le serait aussi. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun espoir d'autre chose. Et donc, ça n'a pas dérogé à la règle. C'est-à-dire que 2 mois plus tard, quand le jugement est tombé, j'ai été condamnée pour la première fois par le tribunal correctionnel d'Annecy, ainsi que le salarié. On a tous les deux été condamnés pour tous les chefs d'accusation. Donc vol pour lui, moi recel et moi violation du secret professionnel. Donc après, c'était des amendes avec sursis. Et on a été condamnés. Moi, j'ai été condamnée à l'inscription à mon casier judiciaire, ce qui est grave pour une fonctionnaire d'État. Et puis en octobre 2016, donc un an encore après. Donc, l'appel a rendu la même chose, quoi. C'est pour ça que j'ai formé un pourvoi en cours de cassation. Et il était hors de question de laisser une condamnation telle que celle-là perdurer dans le temps. Pas forcément pour moi, parce que c'est ce que je dis souvent, c'est que j'ai pas de conséquences pécuniaires, vu que je suis en protection fonctionnelle. J'ai pas de conséquences, vu que la cour d'appel, par contre, a décidé que ça serait pas inscrit à mon casier judiciaire. Donc, j'ai plus ce problème-là non plus. Mais c'est vrai que symboliquement, c'est pour l'inspection du travail dans son entier, c'est pas possible en fait de vivre avec ça. Et puis moi, je veux pas être celle qui a fait condamner l'inspection du travail. Je veux pas être responsable de ça non plus, quoi. Enfin, parce que moi, j'ai été condamnée à titre personnel, mais en fait, à travers moi, c'est l'inspection du travail qui a été condamnée. Et donc, Tefal aura eu ce qu'elle veut, puisque finalement, j'aurais arrêté de les contrôler en décembre 2015 avec la réforme de l'inspection du travail. J'avais demandé à plus l'avoir sur mon secteur parce que c'était trop difficile. Les agents de maîtrise se retrouvent à avoir signé des avenants où ils gagnent la même chose que quand ils travaillaient 35 heures alors qu'ils en travaillaient 41 heures. Le DRH de Tefal de l'époque a été promu DRH France, donc lui, il a eu une promotion suite à ça. En même temps, c'est logique, hein, et remercié pour service rendu. Il a réussi à faire dégager l'inspectrice du travail et à s'exonérer de tout contrôle. Et tous les PV contre lui ont été classés, donc c'est jackpot, quoi. Et j'avais donc porté plainte pour harcèlement moral contre mon directeur départemental et mon directeur régional dans l'été 2014. Et ça aussi, ça a été classé. Donc en fait, ils ont tout classé, ils ont poursuivi personne, à part moi et le salarié en question, qui ils ont poursuivi et condamné. Donc c'est là où on se dit que voilà, tout est calculé pour que les dirigeants de la société Tefal s'en sortent la tête haute et pour que nous on soit condamnés et que ça dissuade tout agent de contrôle ou tout salarié de réitérer quelque chose du même acabit à l'avenir, quoi. C'est ça qui est le plus triste en fait. Et donc, in fine, là, depuis le mois de février, on a décidé que je serais mutée sur la Guadeloupe. C'est connu aussi pour avoir un autre climat social qu'Annecy. Là, je vais changer du tout au tout. Ça va me faire du bien. C'est-à-dire que je vais passer d'un des départements les plus riches de France à un des départements les plus pauvres de France. Le climat social, apparemment, est un peu plus agité qu'ici. Les gens sont un petit peu plus révoltés de ce qui peut leur arriver ou pas. Je risque de peut-être me sentir un petit peu plus dans mon élément là-bas.
Le salarié lanceur d'alerte, lui, a retrouvé du travail dans sa région. Il y a quelques jours, il m'a adressé ce courriel.
Quand j'ai trouvé les documents sur Laura Pfeiffer, j'étais outré, mais je savais que ce n'était pas mes affaires. J'ai décidé de ne rien dire. Ce n'est que quelques jours après, 2 semaines, je crois, que j'ai appris qu'elle était en arrêt maladie pour pression psychologique. C'était un délégué du personnel qui m'avait mis au courant. À partir de ce soir-là, je n'ai plus dormi. Je ne pouvais parler de tout ça à personne. La nuit, je ne faisais que penser, pourvu qu'il ne lui arrive rien de grave. Je pensais à toutes ces personnes d'Orange qui se suicidaient. Et puis, à force de me dire que je serais complice de cela si je ne lui portais pas secours, j'ai décidé de me mettre en contact avec elle et de tout lui transmettre. Voilà, vous en savez plus maintenant, j'espère. Le simple fait de reparler de tout ça me provoque des crises d'angoisse. C'est pas toujours évident. Je pleure souvent, chose qui ne m'arrivait pas avant. Je trouve aide et refuge dans la montagne à travers le sport. C'est ma bouée de secours. Christophe M.
Message archivé reçu. Vendredi 12 mai à 15h31.
Oui, bonjour, c'est Tefal. Je me permets de vous appeler parce que je crois que vous avez cherché à joindre Kim Com. Au sujet de Tefal, je vous confirme bien que on fait aucun commentaire sur le sujet.
C'était Laura Pfeiffer, inspectrice du travail, un reportage d'Inès Léraud réalisé par Cécile Lafont avec un coup de main de François Connac et diffusé pour la première fois en mai 2017. Sachez qu'après 7 ans de procédure dans plusieurs juridictions, le 3 mars 2021, la Cour de cassation a confirmé la condamnation de Laura Pfeiffer pour violation du secret professionnel. C'est sa 4e condamnation en 5 procès pour un dossier devenu un symbole. En 2018, sa condamnation avait pourtant été annulée une première fois, précisons-le, par la Cour de cassation qui avait suivi l'argumentation de Laura Pfeiffer.
Tu voudrais la prendre par surprise, il se peut qu'elle ait déjà fui. Diluée par la clarté du jour, elle reviendra au détour de la nuit. Ne demande rien à l'ombre, ne demande